Chapitre 3. Le père de tous ceux qui ont foi. Paragraphe 1 et 2. Question. Que s'est-il passé depuis l'époque de Noé? Et qu'en pense Abraham? Abraham entend des cris. Il lève les yeux vers la tour qui domine la ville d'Ur et voit de la fumée en sortir. La note ajoute. À ce moment du récit, Abraham s'appelle en réalité Abram. C'est seulement des années plus tard que Dieu changera son nom en Abraham, qui signifie « père d'une foule, multitude ». Fin de la note. Les prêtres du Dieu Lune sont encore en train d'offrir des sacrifices. Imagine Abraham qui poursuit son chemin en secouant la tête. Pour rentrer chez lui, il doit passer par des rues pleines de monde. Il fronce les sourcils en pensant à l'idolâtrie si courante dans la ville. Le faux culte s'est tellement répandu depuis le déluge. Noé est mort 2 ans avant la naissance d'Abraham. Après être sorti de l'arche, il a offert un sacrifice à Jéhovah qui a ensuite fait apparaître un arc-en-ciel. À cette époque-là, il n'existait qu'un seul culte, le culte pur. Mais 10 générations plus tard, peu de personnes le pratiquent encore. Partout dans le monde, on adore d'autres dieux que Jéhovah. D'ailleurs, c'est le cas de Terah, le père d'Abraham, qui peut-être même fabrique des idoles. Paragraphe 3. Question. Qu'est-ce qui rend Abraham différent? Et de quel intérêt cela est-il pour nous? Mais Abraham est différent. Plus le temps passe, plus il se démarque par sa foi. Sous inspiration divine, l'apôtre Paul l'appellera « le père de tous ceux qui ont foi ».
Nous lisons en Romains 4, verset 11 « Et il a reçu un signe, à savoir la circoncision, comme sceau de la justice par la foi qu'il avait, alors qu'il était dans son état d'incirconcision, pour qu'il soit le père de tous ceux qui ont foi, alors qu'ils sont dans l'incirconcision, afin que la justice leur soit comptée ».
Découvrons pourquoi Abraham mérite bien ce nom. Nous saurons alors comment fortifier notre foi. D'où vient sa foi? Paragraphes 4 et 5. Question. Grâce à qui Abraham a-t-il peut-être appris à connaître Jéhovah? Comment Abraham a-t-il appris à connaître Jéhovah? En ces jours-là, Dieu a des serviteurs fidèles sur terre. Sem, par exemple. Bien qu'il ne soit pas le plus âgé des 3 fils de Noé, il est souvent mentionné en premier, probablement parce que sa foi est remarquable. La note ajoute, Abraham aussi est souvent mentionné avant les autres fils de Terah, même s'il n'est pas le plus âgé. Fin de la note. Après le déluge, Noé a parlé de Jéhovah comme du dieu de Sem. C'est donc que Sem respecte Jéhovah et le culte pur. Abraham a-t-il connu Sem? C'est possible. Essaie d'imaginer Abraham petit garçon. Il doit être émerveillé d'avoir dans sa famille quelqu'un qui a vu plus de 400 ans d'histoire. Le monde violent avec les Nephilim, le déluge, le repeuplement de la terre, la formation des premières nations, la tour de Babel. À ce propos, Sem, lui, n'a pas pris part à la rébellion de Nimrod. Par conséquent, lorsque Jéhovah a confondu les langues des constructeurs, Sem et sa famille ont continué de parler la première langue des hommes, celle de Noé. En grandissant, Abraham a dû développer beaucoup d'admiration pour Sem. De plus, celui-ci est mort alors qu'Abraham était âgé. Ainsi, Abraham a peut-être appris à connaître Jéhovah grâce à Sem. Paragraphe 6, question A. Comment savons-nous qu'Abraham a tiré leçon du déluge? Question B. Quel genre de vie Abraham et Sarah ont-ils? Quoi qu'il en soit, Abraham a tiré leçon du déluge. Il s'efforce de marcher avec Dieu, comme Noé. À la différence des habitants d'Ur et peut-être même de sa famille proche, il rejette l'idolâtrie. Mais il n'est pas seul. Il a une alliée précieuse, Sarah. Une femme d'une beauté et d'une foi exceptionnelle. La note ajoute, au début du récit, Sarah s'appelle en réalité Sarai. C'est seulement plus tard que Dieu changera son nom en Sara, qui signifie princesse. Fin de la note. Même s'ils n'ont pas d'enfants, ils ont sans doute énormément de joie à servir Jéhovah ensemble. Par ailleurs, ils ont adopté le neveu d'Abraham, Lot, qui était orphelin. Paragraphe 7. Question. Comment imiter Abraham? Abraham n'a jamais quitté Jéhovah pour adorer des idoles. Sarah et lui n'ont pas imité les habitants d'Ur. Pour avoir une foi forte, ayons le même état d'esprit. N'hésitons pas à nous démarquer. Jésus a annoncé que ses disciples ne feraient pas partie du monde, et qu'en retour, le monde les haïrait.
Nous lisons en Jean 15, verset 19. Si vous faisiez partie du monde, le monde serait attaché à ce qui est sien. Or, parce que vous ne faites pas partie du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde, voilà pourquoi le monde a de la haine pour vous.
Si, parce que tu choisis de servir Jéhovah, ta famille ou ton entourage te rejette, rappelle-toi que tu n'es pas seul. C'est avec Dieu que tu marches, comme l'ont fait Abraham et Sarah. Sors de ton pays. Paragraphes 8 et 9. Question A. Qu'arrive-t-il un jour à Abraham? Question B. Quel est le message de Jéhovah à Abraham? Un jour, il arrive quelque chose d'incroyable à Abraham. Il reçoit un message de la part de Jéhovah. La Bible n'entre pas dans les détails. Elle dit simplement que le Dieu de gloire est apparu à cet homme de foi.
Nous lisons en Actes 7, versets 2 et 3. Il dit « Hommes, frères et pères, entendez. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham alors qu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Haran, et il lui a dit « Sors de ton pays et de ta parenté, et viens au pays que je te montrerai. »
Peut-être par le moyen d'un ange, le souverain de l'univers lui donne un aperçu de sa gloire impressionnante. Quel bonheur pour Abraham de constater à quel point le Dieu vivant est supérieur aux idoles sans vie adorées par son entourage. Quel est le message de Jéhovah? Sors de ton pays et de ta parenté, et viens au pays que je te montrerai. Remarque qu'il n'est pas précisé où Abraham doit aller. Jéhovah dit juste qu'il lui montrera le pays. Mais d'abord, Abraham doit partir loin de chez lui et de son clan familial. Dans le Moyen-Orient ancien, la famille est très importante. L'exil est considéré comme une punition redoutable, parfois pire que la mort. Paragraphe 10, question. Que vont sacrifier Abraham et Sarah en quittant Ur? Quitter Ur demande des sacrifices. Des fouilles révéleront que c'est une ville riche et animée. On y trouve des maisons luxueuses. Certaines comptent une dizaine de pièces, voire davantage, pour loger une famille et ses serviteurs. Ces pièces sont situées autour d'une cour centrale pavée. Les habitations sont plutôt bien équipées. Eau courante, tout à l'égout, toilette. Et puis, Abraham et Sarah ne sont pas tout jeunes. Lui a sans doute plus de 70 ans, et elle plus de 60 ans. Comme tout bon mari, il veut sûrement que sa femme ait une vie douce, qu'elle ne manque de rien. Imagine leurs conversations à propos du message de Jéhovah, leurs interrogations, leurs inquiétudes. Mais quelle joie pour Abraham lorsque Sarah accepte de relever le défi. Elle aussi est prête à abandonner sa maison bien confortable. Paragraphes 11 et 12. Question A. Avant de partir, que doivent faire Abraham et Sarah? Question B. Comment imagines-tu le jour du départ? Une fois la décision prise, il y a beaucoup à faire. Organiser le départ et préparer les bagages. Que laisser et que prendre pour ce voyage vers l'inconnu? Plus important, qui emmener? Terra est âgée maintenant. Qui va s'occuper de lui? Abraham et Sarah décident de le prendre avec eux. Terra accepte certainement volontiers, car d'après le récit, c'est lui qui conduit la famille hors de la ville. Il semble qu'il a alors cessé de pratiquer l'idolâtrie. Lot aussi va faire partie de l'expédition. Enfin, c'est le grand jour. Vois-tu au pied des murailles de la ville le convoi qui se forme au petit matin? Les chameaux et les ânes sont chargés, les troupeaux sont réunis. Chacun, membre de la famille ou serviteur, est à son poste, plein d'enthousiasme. La note ajoute, des historiens prétendent qu'à cette époque, le chameau n'était pas encore domestiqué. Toutefois, ils ne sont pas capables de le prouver. La Bible, elle, affirme plusieurs fois qu'Abraham possédait des chameaux. Fin de la note. Tous les regards se tournent vers Abraham. On n'attend plus que son signal. Ça y est, il se met en route. Il quitte Our pour toujours. Paragraphe 13. Question. Quel bel état d'esprit beaucoup ont-ils aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup décident de s'installer là où l'on manque de proclamateurs. Certains apprennent une langue étrangère pour étendre leur ministère. D'autres se lancent dans des formes de service qu'ils trouvent intimidantes. Cela demande généralement de faire des sacrifices, de renoncer à un certain confort. Mais quel bel état d'esprit, semblable à celui d'Abraham et Sarah. Si notre foi nous pousse à de telles actions, soyons sûrs que Jéhovah nous donnera beaucoup plus que ce que nous lui donnons. Il récompense toujours ceux qui ont foi. Va-t-il récompenser Abraham? La traversée de l'Euphrate. Paragraphes 14 et 15. Question A. Comment imagines-tu le voyage entre Our et Haran? Question B. Pourquoi Abraham et sa famille s'installent-ils temporairement à Haran? Imagine Abraham ou Sarah qui montent sur un âne après avoir marché un bon moment. Les conversations se mêlent au bruit des cloches des animaux. Les voyageurs s'habituent à la vie nomade. Peu à peu, même le moins doué devient expert pour ce qui est de dresser ou de lever le camp. Il faut aussi aider Terah à trouver une position confortable sur un chameau ou un âne. Le convoi se dirige vers le nord-ouest, en suivant la courbe de l'Euphrate. Jour après jour, semaine après semaine, le paysage défile lentement. 1000 kilomètres plus tard, des huttes en forme de ruches sont en vue. C'est Haran, une ville prospère située au carrefour de routes commerciales reliant l'Est et l'Ouest. Abraham et sa famille s'y installent pour quelque temps, peut-être parce que Terah est trop faible pour aller plus loin. Paragraphes 16 et 17. Question A. Qu'est-ce qui encourage Abraham? Question B. Comment Jéhovah a-t-il béni Abraham durant son séjour à Haran? Puis Terah meurt, à 205 ans. Abraham pleure son père, mais il trouve du réconfort lorsque Jéhovah lui parle à nouveau. Son Dieu lui répète les instructions qu'il lui a données à Our. Il ajoute même une promesse. Abraham deviendra une grande nation, et toutes les familles de la terre se béniront grâce à lui.
Nous lisons en Genèse 12, versets 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Oui, je rendrai grand ton nom, et montre-toi une bénédiction. Oui, je bénirai ceux qui te bénissent, et qui appellent le mal sur toi, je le maudirai. Et par ton moyen, se béniront à coup sûr toutes les familles du sol. »
L'alliance que Jéhovah conclut avec lui encourage Abraham à se remettre en route. Maintenant, il y a encore plus d'affaires à transporter. En effet, Jéhovah a béni Abraham et sa famille durant leur séjour à Haran. On lit dans le récit qu'ils prennent tous les biens qu'ils avaient amassés et les âmes qu'ils avaient acquises à Haran. Genèse 12, verset 5. Abraham doit devenir une nation. Il lui faut donc des ressources et des serviteurs, autrement dit une grande maisonnée. Jéhovah ne rend pas forcément ses adorateurs riches. Par contre, il leur donne tout ce dont ils ont besoin pour accomplir sa volonté. Ainsi encouragé et bien équipé, Abraham repart vers l'inconnu. Paragraphe 18. Question A. Quelle date est très importante dans l'histoire des relations de Jéhovah avec son peuple? Question B. Quels autres événements auront lieu un 14 Nisan? À plusieurs jours de route de Haran se trouve Carchemish. Abraham traverse probablement l'Euphrate à cet endroit, comme beaucoup de voyageurs. C'est en 1943 avant notre ère, manifestement le 14e jour du mois qui sera appelé plus tard Nisan. Il s'agit d'un moment très important dans l'histoire des relations de Jéhovah avec son peuple, puisque l'alliance conclue avec Abraham prend effet en ce jour. Au sud s'étend le pays que Jéhovah a promis de montrer à Abraham. Paragraphe 19. Question. De quoi Jéhovah parle-t-il à Abraham? Et à quoi Abraham repense-t-il peut-être? Abraham se dirige vers le sud. Il s'arrête aux grands arbres de Morée près de Shechem. Là, Jéhovah lui parle à nouveau, cette fois de sa semence ou descendance. Il lui promet qu'elle prendra possession du pays. Il est possible qu'Abraham repense alors à ce que Jéhovah a annoncé en Éden, à propos d'une semence qui sauverait un jour l'humanité. Il commence peut-être à comprendre qu'il va jouer un rôle dans l'accomplissement de la volonté de Jéhovah pour les humains. Paragraphe 20. Question. Comment Abraham manifeste-t-il sa reconnaissance à Jéhovah? Abraham est très reconnaissant d'être ainsi honoré. Il parcourt le pays sûrement avec prudence parce que celui-ci est encore habité par les Cananéens. Pourtant, il y construit des autels pour son Dieu, d'abord près des grands arbres de Morée, puis près de Bethel. Il invoque le nom de Jéhovah, certainement en le remerciant de l'avenir qui attend ses descendants, et peut-être aussi en prêchant à ses voisins cananéens.
Nous lisons en Genèse 12, versets 7 et 8. Jéhovah apparut alors à Abraham et dit « À ta semence, je donnerai ce pays. » Après cela, il bâtit là un autel à Jéhovah qui lui était apparu. Plus tard, il passa de là à la région montagneuse, à l'est de Bethel, et il dressa sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Puis il bâtit là un autel à Jéhovah et se mit à invoquer le nom de Jéhovah.
Bien entendu, au cours de sa vie, sa foi sera durement mise à l'épreuve. Cependant, au lieu de penser à sa maison et à tout ce qu'il a laissé à Our, Abraham se concentrera sur les promesses de Jéhovah. Selon Hébreux 11, verset 10, il attendait la ville ayant des fondements véritables, ville dont Dieu est le bâtisseur et l'auteur. Paragraphe 21. Question A. Que savons-nous de plus qu'Abraham? Question B. Qu'es-tu décidé à faire? Aujourd'hui, nous en savons bien plus qu'Abraham sur cette ville. Nous savons qu'il s'agit du royaume de Dieu, qui a pris ses fonctions au ciel et qui mettra bientôt fin au monde actuel. Nous savons aussi que la semence promise à Abraham est Jésus-Christ, le roi de ce royaume. Quel plaisir nous aurons de faire la connaissance d'Abraham lorsqu'il sera ressuscité. Et quelle joie pour lui de constater comment Jéhovah aura accompli dans les détails sa volonté pour les humains. Aimerais-tu voir Jéhovah réaliser toutes ses promesses? Alors continue d'imiter Abraham. Sois prêt à sacrifier ton confort, sois obéissant et sois reconnaissant pour ce que Jéhovah fait pour toi. Si tu imites le Père de tous ceux qui ont foi, il deviendra un peu ton Père à toi aussi. La ville qu'Abraham et Sarah ont quittée. Depuis longtemps, l'organisation de Jéhovah nous aide à nous mettre à la place des personnages bibliques et à imaginer où ils vivaient. Voici par exemple la description que le Réveillez-vous du 22 mai 1988 donne d'Our, Ur. À mi-chemin entre le golfe Persique et Bagdad, s'élève un triste amas de briques, sentinelle solitaire, perdu au milieu d'un vaste désert stérile. Battu par les tempêtes de sable et desséché par un soleil de plomb, ces ruines sinistres se dressent dans un silence de mort, rompu seulement de temps à autre par le hurlement d'un animal nocturne. Voilà tout ce qui reste de la puissante ville d'Ur. Mais remontons 4000 ans en arrière. Ur est bâti sur ce qui est alors la rive gauche de l'Euphrate. C'est une cité prospère. Des boutiques et des maisons d'un blanc éclatant bordent ses rues sinueuses. Des clients marchandent avec les commerçants dans les bazars. Des ouvriers filent nuit et jour des écheveaux de laine blanche. Les passerelles grinçantes des bateaux plient sous le poids des trésors que déchargent des esclaves. Quelle agitation à l'ombre de la ziggourat, cette tour qui domine la ville. Les adorateurs du dieu lune Nana, ou Sin, auquel on attribue la prospérité d'Ur, viennent lui rendre hommage dans ce temple. Toutefois, un homme est là, qui trouve repoussante l'odeur des sacrifices offerts par des impies au sommet de cette grande pyramide. Son nom, Abraham. Le 14 Nisan dans la Bible. Abraham a, selon toute apparence, traversé l'Euphrate le 14 Nisan 1943 avant notre ère, une date importante dans la chronologie biblique. D'autres grands événements ont eu lieu un 14 Nisan. Exactement 430 ans plus tard, en 1513 avant notre ère, c'est le 14 Nisan que Jéhovah a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte pour qu'ils prennent possession du pays promis à Abraham. En 33 de notre ère, c'est aussi le 14 Nisan que Jésus a conclu avec ses apôtres une alliance pour qu'ils deviennent membres du gouvernement céleste qui mettra fin à tous les problèmes de l'humanité. Et aujourd'hui encore, c'est le 14 Nisan suivant le calendrier juif que les témoins de Jéhovah célèbrent chaque année le repas du Seigneur. Qu'en penses-tu? Pourquoi fallait-il de la foi à Abraham pour rejeter l'idolâtrie? Pourquoi n'était-ce pas facile pour Abraham de quitter Ur? Comment Jéhovah a-t-il récompensé la foi d'Abraham? Comment comptes-tu imiter la foi d'Abraham ?